nous en étions toujours à la découverte du principe de finalité. Il faut y revenir tout le temps, parce que ça nous échappe. C'est toujours la différence, et je crois qu'il faut bien comprendre la différence de la saisie de la cause formelle. Quel est le principe, le premier dans l'ordre de la cause formelle, dans l'ordre de la détermination? C'est la substance. On arrive à cette double détermination, substance quidité, c'est-à-dire intelligible, l'homme, pour comprendre Pierre, et puis l'individu. C'est très curieux que toujours, avant de saisir le principe, on saisit les deux modalités qui nous oblige d'aller plus loin. Je ne peux pas m'arrêter à la saisie de la quidité. Beaucoup de philosophes s'arrêtent à la quidité. Il suffit de comprendre l'intelligibilité des choses. Beaucoup de philosophes s'arrêtent à l'individu. Enfin, c'est les deux grandes tendances philosophiques. Les deux grandes tendances philosophiques, c'est l'idéalisme et le positivisme. Et le dépassement des deux, c'est la substance. Ça nous aide toujours, hein, de voir les erreurs. Opporté Thérèse, c'est. Il faut que les hérésies existent. C'est dit dans l'Écriture. Opporté Thérèse, c'est. Et dans notre vie intellectuelle, n'est-ce pas, il y a quelque chose comme ça. Il faut avoir vu l'obstacle, s'être arrêté à l'obstacle pour le dépasser. Et l'obstacle de la cause formelle, c'est de s'arrêter à l'intelligibilité des choses. Je connais, c'était le père Garrigou-Lagrange, on s'amusait beaucoup avec le père Garrigou-Lagrange, parce qu'il était très scolastique, il était professeur à Rome, et il était très considéré. Et alors, il y avait la construction d'un couvent, on l'avait invité d'aller voir. Alors, il a dit, j'ai vu le plan, ça me suffit. Voir le plan, c'est l'intelligibilité, la quidité. Et ce n'est pas tout à fait la même chose de voir les plans et de voir la réalisation. La réalisation, c'est le sujet. L'intelligibilité, c'est le plan. Et pour beaucoup de personnes, l'intelligibilité suffit. On sait très bien que l'intelligibilité ne peut jamais aller jusqu'au bout de la détermination. construit, vous savez bien, une partie du couvent. Et l'architecte est un peu idéaliste comme ça. Il n'a pas assez vu que le plan, c'est le plan. Et quand il se réalise, ah, on a oublié quelque chose de particulier, l'individu. Il y a des gens qui se contentent de l'intelligibilité, le risque à sa tête. Mais c'est très important de voir les deux. Au point de vue de la recherche du principe de finalité, c'est-à-dire l'être en tant qu'être, quelle est sa fin ? Posez-vous le pourquoi de l'être. C'est quand même pas commode, hein, saisir le pourquoi de l'être. Pourquoi ça existe ? La finalité, c'est le pourquoi. En vue de quoi ? Pourquoi ? Le pourquoi de l'être. Alors, qu'est-ce que je saisis ? Je saisis toujours. Je ne saisis pas l'acte tout de suite, c'est-à-dire ce qui est parfait. Je saisis ordinairement le devenir. C'est le devenir qui est le plus sensible pour moi. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est le devenir. C'est le devenir de l'humanité. Mais le devenir, il est ordonné à quoi ? Tout devenir est ordonné à l'imperfection. Tout ce qui est imparfait est ordonné au parfait. L'imparfait n'est compréhensible que dans la lumière du parfait. S'arrêter à l'histoire, c'est s'arrêter à l'histoire de l'humanité, au devenir. Il est pourquoi ce devenir ? Pourquoi ? Il est en vue d'atteindre la fin. Vous prenez le train à tel endroit. Dans son devenir pour tel endroit. Le principe de finalité, vous l'appliquez tout le temps, chaque fois que vous prenez le train, si vous réfléchissez. Dans votre vie, le principe de finalité, vous le vivez tous les matins. Vous vous réveillez pourquoi ? Pourquoi vous vous réveillez ? Pour le plaisir d'être réveillé. Quelquefois, on aime mieux dormir que de se réveiller. Vous vous réveillez pourquoi ? Vous voyez, quand on a beaucoup de peine à se lever, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut tout de suite regarder la finalité. Il ne faut pas s'arrêter au devenir. Le devenir, si on s'arrête au devenir, on devient statue de seul. Tandis que, ah, aujourd'hui, je vais grandir dans ma charité en me levant. Alors, vous voulez à toute vitesse. Parce que vous voulez grandir dans la charité. Si vous ne voyez pas ça, vous avez envie de dormir. Oui, la finalité, il faut la saisir dans notre vie. Est-ce que toute votre vie est finalisée ? Est-ce que vous n'avez pas pas envie de dormir. Dormir à tous les points, hein. C'est-à-dire au fond, oh, je suis pas mal, hein. Quand même, je ne commets pas de crime, donc je peux m'arrêter un peu. Je n'ennuie pas trop mon voisin. Comprendre les limites de notre devenir pour dépasser ces limites, si on n'a pas une finalité en acte, on ne veut pas. Tous les matins, vous vous réveillez. Et si vous vous réveillez avec beaucoup de courage, vous offrez toute votre journée au Seigneur. Et ça vous permet de vous réveiller. Il y a quelqu'un qui m'attend. Quand vous avez un rendez-vous très tôt le matin, à l'heure de votre lever, ah, vous vous levez tout de suite. Pour... Ah, il m'attend. Il m'attend, c'est quoi? Ah, c'est exciter un désir pour rencontrer quelqu'un. Et donc la personne que j'attends, elle me finalise. Il faut découvrir la finalité dans votre vie. Et ça, ça s'éduque. Hein. Bon. La finalité, elle est au fond très cachée. Et pour nous, depuis Auguste Comte, pour nous, où les sciences nous forment énormément, notre psychologie. Nous avons une psychologie d'enfants du troisième millénaire. Forcément, ça ne peut pas être autrement, ça. Vous n'avez pas la psychologie de quelqu'un du Moyen-Âge. Si vous étudiez le ménage, je vous dis, oh, tiens. Et c'est vrai, c'était assez particulier. C'est pas le même. Qu'est-ce qui change? C'est que la finalité, ce qui m'éveille, ce qui me réveille, ce qui me permet d'être moi-même tout entier à ce que je dois être. Pas à ce que je suis, mais ce que je dois être. Le devoir. C'est le sens de la finalité de mon être. Il faut tout le temps revenir à cette saisie de la finalité. Aristote dit la finalité, c'est se saisir par une induction analogique, multiple, parce que la finalité, elle se saisit à tous les niveaux de la vie. La vie végétative. Pourquoi vous mangez? Vous mangez? C'est agréable de manger? Oui, oui. Mais pas toujours. C'est pas toujours agréable de manger. Je mange pourquoi? Pour faire mon devoir. J'ai quelque chose à faire durant la journée. Si je ne mange pas, je le ferai mal. J'aurai mal à la tête. Et normalement, c'est ce qui arrive, je ne prends rien le matin, on est un peu abruti, et on se réveille en prenant quelque chose. Quelque chose, quelquefois presque rien, ça fait rien, c'est quelque chose. Notre vie végétative, notre vie sensible, nous aimons le soleil. C'est vrai, on se réveille ordinairement plus joyeux criait du soleil que la pluie. La pluie, ça ne vous finalise pas beaucoup, psychologiquement, normalement. On la supporte. On dit « vive le soleil ». Alors quand le soleil se lève, c'est comme hier, le soleil s'est levé à 1h de l'après-midi. Alors, jusqu'à 1h de l'après-midi, j'avais envie de dormir. Le soleil s'était pas levé. Il y avait ce brouillard. Je suis sensible. Vous restez dans le brouillard. Et il y a certaines personnes qui restent toutes les matinées dans le brouillard. Continue. On suit un cours dans le brouillard. On ne cherche pas la lumière. On ne cherche pas à découvrir quelque chose qui nous actue. La lumière, ça nous actue. Ça nous actue en ce sens que ça nous permet de vivre, de voir. Oui, essayez de comprendre que tout ce qui est en puissance en vous a soif de l'acte. Appétite, c'est le mot latin qui est très expressif. Appétere, c'est désirer. On a un désir de voir. Il y a enfin dans la vie, il y a ce désir de d'être actué et d'aller plus loin. Actuer, c'est aller plus loin. Un vivant veut toujours aller plus loin. Pourquoi ? Qui désire aller toujours plus loin ? Parce qu'il est attiré vers quelque chose de meilleur. Il a Je crois que le principe de finalité, Aristote a bien compris qu'on devait le découvrir dans notre vie végétative, dans notre vie sensible, dans notre vie affective, dans notre vie spirituelle. C'est ce qui nous permet de sortir de nous. De ne pas nous endormir, de ne pas demeurer en puissance. Hey, réveille-toi. Qu'est-ce que quand on dit réveille-toi, acte, tu deviens plus toi-même. C'est-à-dire se dépasser. Bon, je crois que c'est quelque chose que nous devons tout le temps essayer de saisir mieux. Parce que on saisit la finalité, le principe de finalité, on saisit comme étant présent en nous, mais le principe de finalité ne se comprend parfaitement que lorsque nous l'avons découvert à travers notre vie végétative, à travers notre vie sensible, à travers notre vie spirituelle, et en dernier lieu, à travers l'amitié, puisque c'est l'expérience la plus parfaite. Et c'est très, très important, là. Or, le principe de finalité est enfoui dans notre culture moderne. Dans notre culture moderne, notre culture scientifique, Auguste Comte a enfoui la finalité. La finalité a été enfouie depuis Descartes, pour nous Français. Pour nous Anglais, elle est enfouie depuis Locke. pour nous allemands, est enfoui depuis Kant. C'est curieux, vous savez. Il y aurait une histoire de la philosophie qui serait très intéressante à faire. L'enterrement de la finalité. Et voir comment, quand vous faites une histoire, le plan de toute la philosophie depuis Descartes, puisque pour nous, c'est Descartes, il faudrait mettre avant Descartes Occam. C'est tout le bon sort de la théologie, tout le mauvais sort de la théologie. C'est curieux, mais c'est comme ça. Notre culture actuelle, ce qu'il y a de bon en elle, vient de la philosophie, vient de la théologie. Thomas d'Aquin, qui assume la philosophie d'Aristote et qui la garde. Si Thomas d'Aquin n'avait pas existé, Aristote, on n'en parlerait plus. C'est très curieux. Aristote, heureusement, a été enseveli dans la théologie. Alors, il demeure en acte. Saintement, revenant à Aristote, remet Aristote présent. Mais depuis le XIVe siècle, avec Occam, progressivement, la finalité disparaît. Et la finalité disparaît à partir du moment où vous considérez que le premier objet de l'intelligence, c'est moi. C'est ce qu'on appelle le subjectif, la subjectivité. On ne dit plus que le premier objet de la vérité, le premier objet de l'intelligence, c'est ce qui est. Pour Aristote, pour saint Thomas, le premier objet de l'intelligence, c'est ce qui est. Ceci est. C'est ça qui m'éveille. Pour Occam, premier objet de l'intelligence, je pense. C'est pas Descartes qui a dit ça le premier. Le premier, c'est un théologien. Un théologien anglais qui a vu la première chose, le premier objet de l'intelligence. C'est... Alors, comme il était franciscain, il aimait le prochain aussi. Alors, il dit, c'est moi... Et l'amour de Socrate. Alors, l'amour de Socrate a disparu tout de suite à la mort d'Occam, à la mort du franciscain. Et alors, on a continué. Premier objet d'intelligence, c'est moi. Je pense. Donc, je suis. Oui, c'est intéressant de voir qu'au fond, toute est parti de cette question, qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle? Qu'est-ce qui est premier dans la vie intellectuelle? Est-ce que c'est le réveil en disant, ceci est, je m'assieds sur mon lit, je dis, c'est mon lit, et je ne rêve plus. Tandis qu'au contraire, premier objet d'intelligence, je suis. Alors là, c'est très net. Alors c'est intéressant de voir comment le je suis de Descartes, le premier je suis du côté culture anglaise, le premier je suis du côté allemand. Et comment ce « je suis » qui est différent, qui a des couleurs différentes, mais au fond, c'est toujours « je suis ». Ce n'est plus l'être. C'est je suis. Et tout ça, c'est parti de Occam. Alors, Occam a été condamné par l'Église. L'Église a bien compris que Occam, c'était très dangereux. Que Occam, comme théologien, c'était très dangereux, puisque moi ne me fais pas découvrir Dieu. L'être me fait appel à quelqu'un d'autre que moi. Puisque je ne suis pas maître de mon existence. Tandis que de ma pensée, je suis maître. Je pense quand je veux. J'existe pas quand je veux. Vous existez tous les jours, quelquefois triste, quelquefois joyeux, et vous n'en pouvez pas trop. Ça dépend de choses qui ne dépendent pas de vous. Je suis. Et vous voyez, la mort. La mort, elle me tombe sur le dos. Hein. Et je ne la choisis pas. Alors, aujourd'hui, conséquence du je suis qui est premier, la mort. Ah, je suis maître de la mort. Je veux mourir quand je veux. Ça, c'est pour finir et montrer que Occam avait raison. C'est très curieux. Voilà, d'une certaine manière, c'est la fin. On assiste à la fin de ce grand tremblement de terre, hein, ce grand tremblement du XIVe siècle. Le XIVe siècle a été extraordinaire comme tremblement psychologique, XIVe et XVe, où tout est parti dans tous les sens. Et qu'est-ce qui a rattrapé, qui a permis de tout réunir, c'est « je suis ». Ça a pris une importance énorme. Alors, je suis, au point de vue finalité, est-ce que votre « je suis » vous finalise ? Est-ce que votre « je suis » vous finalise ? Est-ce que vous pouvez trouver la finalité dans votre « je suis » ? Vous trouvez ma finalité, mes désirs, mais la finalité de l'homme. La finalité de moi et de mon voisin. Dans le je suis, je m'enferme en moi. Et j'ai une peine énorme de dépasser le je suis et de découvrir Socrate que j'aime. Très vite, Socrate, que j'aime, est disparu. Descartes ne dit pas « je pense et j'aime Socrate ». Ça ne va pas du tout avec Descartes. « J'aime Socrate ». « Je pense », ah oui, c'est tout à fait Descartes, « je pense ». Oui, toute la différence entre le théologien qui rumine sur lui-même, et quand même, il est théologien, Jésus a dit d'aimer le prochain. Oui, 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 je viens en second lieu. Je m'aime. Je suis. Et puis j'aime Socrate. C'est extrêmement éclairant de voir ces choses-là, parce que ça nous fait comprendre comment la finalité a été perdue. Et la science, dans l'expérimentation, n'a pas redécouvert la finalité. Pourquoi ? Parce qu'au fond, dans l'expérimentation, j'ai toujours une intention Et à travers cette intention, je fais ma recherche. C'est mon intention qui me dirige. Ce n'est pas la réalité. Je suis. Ce n'est pas la réalité. Ceci est. Quand je dis ceci est, la réalité qui existe me commande. D'où le problème de la vérité. Vous voyez, je veux saisir l'acte dans le problème de la vérité. C'est sûrement une des modalités très importantes de la saisie de l'acte. Si je commence ma philosophie par mon réflexion, ben je suis. Quelle peut être la vérité ? C'est tout ce qui est relatif à mon je suis. Je suis un être intelligent. Je suis un être volontaire. Je suis un être qui aime. Je suis. Si je commence par ceci est, ah, c'est tout à fait différent. La vérité est donc relative à ce qui existe, indépendamment de moi. Le monde a existé avant que je suis, avant que j'existe. Qu'est-ce qui aurait l'audace, le culot de dire « le monde n'a existé qu'à partir de moi ». Vous n'osez pas le dire, ça, quand même. Tous les êtres qui ont pensé avant n'ont pas été jusqu'au bout. Ah non, non, non. Ils sont restés « je suis ». Et donc tout est relatif à ma pensée. La vérité, c'est d'être conforme à ma pensée. Ah, ceci, c'est ce qu'on appelle la sincérité. Et sincère, celui qui dit ce qu'il pense. Alors il jette à la figure de son voisin, tu ne m'es pas agréable. Je ne t'aime pas. Donc tu n'existes pas, je ne t'aime pas. Il n'existe que ce que vous aimez. Alors si vous prenez au contraire le premier moment de la vie intellectuelle, dans ceci est, la vérité, ça consiste à dire, à énoncer. Parce que la vérité, elle est dans mon intelligence. À énoncer ce qui est. Et ce que j'énonce est conforme à ce qui est. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas ce que vous avez dit. Conforme à ce que vous avez dit. Ça, c'est la sincérité. Il ne faut surtout pas confondre sincérité et vérité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on confond constamment sincérité et vérité. Et cette confusion fait que, au fond, en définitive, je suis la mesure de la vérité. Je suis la mesure de ma sincérité. Ça, c'est vrai. Je suis la mesure de ma sincérité. Et je puis seul voir si ma sincérité est vraie. Tandis que dans la vérité, c'est la réalité qui est la mesure de ce que je dis. est-ce que mon intelligence est capable d'atteindre l'autre en tant qu'il est? Et donc, la vérité consiste à dire ce qui est comme ce qui est. Et je peux dire que ma sincérité modifie constamment ce qui est, mais je le sais. Dans le langage ordinaire, sincérité et vérité se mêlent constamment. Et parce que vous n'allez pas dire tout le temps « Ah, ce que je dis est vrai ». Non. Quand vous parlez à votre ami, vous restez au niveau de la sincérité. Et au niveau de la sincérité, c'est conforme à ce que vous sentez. Mais vous ne parlez pas tout le temps d'une façon dogmatique, d'une façon philosophique. Ce que je dis, c'est la vérité. Ça devient effrayant, ça. L'amitié, ça consiste à dire ce que nous pensons, ce que nous voyons. Et l'ami rectifie. C'est très bien, c'est ce qu'il pense. Vous voyez, il y a là une différence très grande et qui est importante. Parce que, quelle est la qualité de mon intelligence? Comment mon intelligence est-elle en acte? Si elle dit adéquatement ce qui est. Alors là, l'intelligence, à ce moment-là, veut rester au plan philosophique. Mais dans l'amitié, je ne dis pas seulement ce qui est, je dis ce que moi, personnellement, je pense, ou personnellement, j'aime. Et donc, à ce moment-là, vous avez un langage d'amitié où le point de vue de la sincérité est premier. Si on recherche toujours la vérité sans voir le point de vue de la sincérité, on risque de ne plus aimer du tout au nom de la vérité. Vous voyez, il y a une distinction qui est très très importante, et, au point de vue philosophique, la distinction entre sincérité et vérité. Et cette distinction, elle relève sur qu'est-ce qui actue mon intelligence. Mon intelligence peut être actuée par la réalité qui est. Mon intelligence peut être actuée par l'amour que j'ai à l'égard de ce qui est. Quand mon intelligence est mesurée par l'amour que j'ai, ce que je dis est conforme à ce que j'aime. Sincérité. Si ce que je dis est conforme à l'être qui est vérité. Et je distingue constamment. Dans un dialogue amical, c'est la sincérité qui domine. C'est ça qui est important. Mais c'est dans un dialogue amical. Si vous cherchez toujours l'adéquation avec la réalité, il n'y a plus d'amitié. Il y a un dialogue philosophique. Vous voyez ? C'est très important de voir comment mon intelligence peut s'orienter vers la réalité et dire adéquatement la vérité. Quand je fais de la philosophie, j'essaie de dire adéquatement ce qu'est la réalité. Alors là, je fais de la philosophie. Je cherche les principes de l'être. Je cherche la substance, l'acte. Quand je suis dans un dialogue amical, je suis sincère. Je dis à mon ami ce que je ressens. Un dialogue amical, commandé par la sincérité. Alors la sincérité est plus ou moins vraie. Il y a tout le point de vue affectif qui joue. Tout le point de vue des circonstances qui joue. Point de vue philosophique, mon intelligence est en acte. Mon intelligence est en acte quand elle est conforme à la réalité. Donc la vérité, adéquatio, intellectus ad rem, c'est comme ça que saint Thomas définit la vérité. Adéquatio, l'adéquation de l'intelligence à la réalité. Ce que je dis est conforme à la réalité. Ce que je dis est conforme à la réalité, je suis vrai. Ce que je dis est conforme à l'amour que j'ai vis-à-vis de telle ou telle chose. C'est la sincérité. Et il y a un jeu constant entre sincérité et vérité. Suivant que je suis avec un ami, suivant que j'enseigne et conseille la vérité. C'est pas de langage, non, c'est tout simplement le point de vue affectif qui intervient dans le langage amical et le point de vue de la réalité qui est premier dans le langage philosophique. Donc, la vérité au plan philosophique, adéquatio intellectus ad rem, ce que je dis est conforme à la réalité. C'est la vérité. Donc vous voyez que la vérité, elle est mesurée par la réalité en acte. Et en moi, je deviens relatif à la réalité en acte. Donc, la vérité que je possède au-dedans de mon intelligence, elle est relative à la réalité. Donc, la réalité me permet à mon intelligence d'être en acte. Mon intelligence, elle est en acte toujours en dépendance de la réalité. Et c'est la réalité qui mesure mon intelligence. Donc vous voyez que la vérité, en tant qu'elle possède mon intelligence, n'est jamais l'acte dernier. Elle est toujours relative à la réalité. C'est la réalité qui est en acte. Pour que mon intelligence soit en acte. Vous trouvez là la distinction fameuse d'Aristos, entelecheia, energeia. Et ça, c'est très important. Entelekeia, c'est mon intelligence qui est vraie. Elle dit la vérité. Elle est en acte. Energeia, c'est la réalité existence qui mesure mon intelligence. Donc, la vérité que nous possédons dans notre intelligence, elle n'est jamais l'acte dernier. C'est la réalité qui mesure mon intelligence. Donc, jamais ce que je possède comme vérité me conduira à l'être premier. C'est la réalité là, celle qui mesure, qui est en acte ultime. C'est elle qui me conduit à l'être premier. Vous voyez, c'est très important de voir cette modalité de l'acte dans ma connaissance. Je ne suis pas premier dans l'ordre de la connaissance. Ce que je vous dis, c'est ce que je possède comme vérité. Et cela conduit à la réalité. Ce n'est pas moi qui suis la mesure de la connaissance. Et je ne peux jamais être mesure de la connaissance d'un autre. Je lui dis ce que je connais de la vérité, de la réalité, et ce qui est vrai de la réalité. Mais je suis toujours relatif à la réalité. C'est la réalité qui est acte. Il n'y a qu'en Dieu, c'est-à-dire dans l'être premier, où tout ce qu'il connaît est la vérité. Parce qu'en lui, l'être et la vérité ne font qu'un. Tandis qu'en moi, la vérité et l'être, c'est deux choses différentes. La vérité, c'est ce que je connais de la réalité. Et je veux être conforme à cette réalité. Ou au contraire, je dis ma réaction personnelle en face de cette réalité. Je suis sincère. Nous avons dans notre vie intellectuelle, dans notre recherche intellectuelle, nous avons toujours ces deux éléments, entelekeia, energeia. Entelekeia, ce que vous avez saisi de la réalité, et energeia, la réalité. Donc, la vérité, c'est lorsque ce que vous avez saisi de la réalité est conforme à cette réalité. Vous avez les deux. Donc, vous ne saisissez l'acte que lorsque vous comprenez que ce que vous possédez de la réalité, ce n'est pas l'acte ultime, c'est la réalité qui a actué votre intelligence, qui a déterminé votre intelligence. Et c'est vrai lorsque ce qui a déterminé votre intelligence est conforme à la réalité.